Mylène de Mongeau, bonjour. Donc vous êtes à Liège pour présider la section des longs métrages au Festival du film de comédie de Liège. Alors, comédie, c'est un genre que vous affectionnez particulièrement, c'est...
Énormément. Je suis toujours. Je trouve que c'est un des arts les plus difficiles du cinéma. Je trouve que c'est plus difficile de faire rire que de faire pleurer. Je trouve que c'est très difficile le bon rythme d'une comédie. De temps en temps, on me demande quelles sont les meilleures comédies de ma vie. Et j'arrive à me rappeler assez rapidement d'une douzaine de comédies. Mais c'est très difficile. Mais enfin, moi, pour moi, un chef-d'œuvre absolu, c'est To Be or Not To Be. Quand je pense à ce film, je dis, c'est pas possible d'avoir fait un film d'une telle perfection comme ça. Et quand je le revois de temps en temps, parce que ça m'arrive, je me dis, mais c'est magnifique. Et ce qui me fait râler, c'est que je me rends compte que la jeune génération, elle manque de curiosité, parce qu'elle ne connaît pas les vieux films, elle ne connaît pas les acteurs anciens, et ça me met parfois en rage. Alors, j'arrête pas de dire aux jeunes, mais allez à la cinémathèque, allez voir les vieux films, allez voir ce que des gens très talentueux, qui étaient nés avant vous, ont fait, et les choses formidables qu'ils ont faites. Enfin, tout ça pour dire que je suis très contente d'être présidente, parce que c'est la première fois de ma vie que je suis présidente de quoi que ce soit.
Alors, c'est un choix personnel, la comédie, ou c'était parce que les réalisateurs vous trouvez ou vous trouvent idéal pour ce genre-là?
Oui, je pense que moi, j'étais faite pour la tragédie à la base. Les Sorcières de Salem prouvent bien que j'étais une actrice 57, dramatique, là, hein. Vous rendez compte. Et très, très vite, à cause de mon joli minois, de mon joli frais minois, je suis passée dans les comédies charmantes et populaires comme Sois belle et tais-toi, qui a été la première charmante comédie qui a très bien marché. Après, il y a eu Bonjour Tristesse, mais quand on revoit Bonjour Tristesse aujourd'hui, c'est pas du tout une comédie, c'est un film qui a bien vieilli comme le bon vin et ressort maintenant la cruauté du sujet. Et je trouve que c'est devenu un film magnifique et mieux que le livre de Sagan, plus profond. Ouais. C'est très intéressant. Bon, bah après, il n'y a que les comédies. C'est vrai que ce qui m'a sauvée d'un point de vue popularité, c'est évidemment les Fantomas. Quand on a fait trois Fantomas avec cette espèce de génie qui était Louis de Funès, ça vous porte pour un temps infini. Hein. C'est ce que disait Galabru. Il disait merci de Funès, on te doit tout. Et moi, je dis comme lui, je dis merci de Funès, on te doit tout. Ouais. Parce que s'il n'y avait pas de Funès, on serait probablement oublié depuis longtemps.
Alors, votre actualité, elle est plutôt en librairie. Deux bouquins sortis en mai chez Michel Lafon, c'est L'amour fou. Votre coup de foudre pour Marc Simenon, 1966. 30 ans d'amour, de passion.
De rage et de fureur aussi.
On peut le dire.
Oui, oui.
Et vous avez attendu, donc c'est 20 ans après sa disparition, vous nous écrivez ce livre. C'est quoi? C'est l'heure des bilans ou un besoin de se souvenir?
Non, je ne sais pas pourquoi c'est venu comme ça. Probablement parce que ça fait 20 ans qu'il est parti. Et justement, à Paris, il y a une semaine, j'ai organisé au cinéma Mac Mahon une après-midi entière consacrée à Signe Furax, film que nous avons produit ensemble et qu'il a mis en scène. Et j'ai sonné le rappel de tous les copains encore vivants qui pouvaient venir voir le film. Et ça a été un vrai plaisir. C'est vrai qu'il est mort en octobre 99, c'est vrai que ça fait 20 ans. Et ma foi, 20 ans, pour moi, c'est hier. C'est ça qui me tout d'un coup, je me dis, ah, mon Dieu, 20 ans. Et ça passe comme ça, brutalement. Donc oui, L'amour fou, c'est venu parce que c'est surtout l'éditeur qui m'a dit, écoutez, j'adore vos histoires d'animaux et surtout cette espèce de période folle avec Marc Simenon. Je dis, bon, mec, parce que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Animalement vôtre, dans lequel il y a beaucoup d'histoires d'animaux. Et là, l'éditeur a absolument voulu reprendre quelques histoires de mon livre que nous avons revisité, bien entendu, et qui m'a permis de prendre mes années folles, si vous voulez, avec lui. Mais en même temps, c'était une façon de le remercier, parce que si je n'avais pas connu cet homme-là, je n'aurais jamais pu même connaître les histoires qui me sont arrivées, parce que le lion... C'est quand je relis l'épisode du lion, je me dis, mais c'est pas possible qu'on ait fait ça, c'est pas possible qu'on ait fait... Mais si, c'est possible, on l'a fait, on a vécu comme ça. Mais grâce à lui, donc, il était complètement, je dirais pas fou, je dirais, fantasque. Mmh. Et je l'ai suivi dans son délire et dans ses... Et je me suis, avec cet homme-là, je me suis jamais ennuyée une minute. Voilà.
Et vous n'avez pas eu la sensation ou le regret parfois d'avoir mis votre activité de comédienne un peu entre parenthèses?
Eh ben non, pas du tout, parce que si vous voulez, avant de le connaître, donc de 58 à 65, quand je l'ai connu, j'ai vraiment fait le tour de ce que c'était d'être devenue une vedette célèbre, pas une comédienne, une vedette. Et donc les honneurs, les paillettes, les grands hôtels, les limousines, les premières, les machins, tout ça j'ai connu. Et je me suis souvent profondément ennuyée parce que quand vous vivez dans un luxe absolu pendant quelques temps, mais que dans ce luxe, vous êtes seul le soir quand vous rentrez vous coucher, c'est pas spécialement rigolo. Donc le luxe, on en a vite fait le tour. Le luxe, c'est très très agréable quand vous amenez une vie, disons, modeste. Hein, une vie normale, une vie comme tout un chacun. Et tout d'un coup, vous basculez pendant 2-3 jours dans un univers luxueux où le matelas est admirable, la télé est gigantesque, les femmes de chambre sont là pour faire votre chambre, on vous sert le petit déjeuner. C'est très, très, très agréable. Mais c'est très agréable 3 jours. Et je me souviens, j'en discutais avec Laurent Gérard, qui était un bon ami, et je lui parlais de Tahiti en me disant « c'est le rêve, Tahiti, etc. » Il m'a dit « oui, j'ai été là-bas, oui, j'ai fait des prestations là-bas, j'ai été dans le plus bel hôtel du coin, sur pilotis, sur le lagon, au réveil le matin avec les ananas et la mer qui est au pied. » Il me dit « au bout de 3 jours, on s'emmerde !» Donc voilà, moi je suis comme lui aussi, le luxe c'est très bien, mais au bout de 3 jours, on s'emmerde, c'est pas ça dans la vie, le luxe.
Alors, autre ouvrage sorti en septembre 2019 chez Archipel. Et là, ce n'est pas une fiction, c'est vraiment aussi autobiographique, Très cher escroc. On dirait une comédie à l'italienne. Hein. Et pourtant, c'est
oui,
pas ça.
Oui, mais ça, c'est 7 ans de galère. C'est tout mon argent disparu. C'est plus un sou à la maison. C'est tout ce que j'avais encore un petit peu de bien qui a été vendu pour survivre.
C'est une escroquerie d'un million six.
Une escroquerie énorme, hein. Et surtout une grande saloperie des banques. La banque OBC, que je ne nommerai pas, mais que je me fais un grand plaisir à nommer, a bloqué mon argent pendant 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu un procès après qu'on ait découvert l'escroquerie. Il y a eu des experts qui ont travaillé. En 2012, vous vous rendez compte, l'expert a rendu son expertise en disant effectivement l'argent qui est là bloqué sur un compte, c'est le sien, il faut lui rendre son argent. La juge d'instruction dit ok, c'est l'argent de Madame de Bourgeau, il faut lui rendre son argent. Elle donne un ordre de restitution. Et cette banque dégueulasse, elle me bloque. Elle me bloque, elle m'a bloqué 1 an, elle a fait appel, 2 ans, elle a fait appel. Je me dis, mais pourquoi ils font ça? C'est pas leur argent. Il n'a jamais été déposé chez eux, il a été déposé dans une autre banque. Comment se permettent-ils de bloquer un argent qui ne leur appartient pas? Et en me disant, quel est leur intérêt? Que je claque, parce qu'elle est vieille. Ils se sont dit, bon, quand elle est âgée, elle va claquer. Donc l'argent, peut-être qu'on arrivera à le récupérer. Enfin, c'est une horreur. Je hais les banques. Et je les tiens aussi beaucoup pour responsables de ces suicides d'agriculteurs que nous avons autour de nous, que je ne supporte pas. Je veux dire, je souffre tous les jours quand j'ouvre le journal et que je vois qu'il y a un agriculteur qui s'est suicidé. Je trouve ça insupportable.
Alors finalement, il y a un dernier chapitre qui ne figure pas dans votre bouquin, qui s'est écrit le 16 octobre. Le banquier, 3 ans de prison, avec condamné à plusieurs indemnités aussi. Soulagement, non?
C'est un soulagement parce que ça va me permettre maintenant de me retourner contre les banques. Parce que lui, à mon avis, ça fait déjà 7 ans que ça dure, donc la banque, la prison, ça m'étonnerait qu'il en fasse. Peut-être qu'il fera un an, peut-être qu'il fera ses 3 ans. J'en sais rien. Pour l'instant, je crois qu'il n'a pas fait appel. Donc, on attend. On n'a pas encore reçu complètement le compte rendu de la condamnation. Bon, je sais qu'il a des dommages et intérêts, surtout par rapport à ce que j'ai vécu. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'argent en dommages et intérêts, sauf que je pense qu'il n'a pas un rond. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Par contre, une banque qui ne vous avertit pas, qu'elle met à la porte un employé indélicat qui ne vous fait pas un courrier ou qui ne vous téléphone pas pour vous dire « Madame, je suis désolée », qui me laisse partir de chez eux avec ce gars-là dans une autre banque, ils sont terriblement fautifs et je leur en veux Mais à mort.
Il y a de quoi. Il y a
à
quoi.
Mort, il ne faut pas exagérer, je ne vais pas les assassiner, mais j'en veux beaucoup.
Alors, revenons au cinéma. Trilogie, vous en parliez, donc Fantomas, 64, 65, 67. Et alors, j'ai appris que normalement, il devait y avoir un quatrième épisode, Fantomas à Moscou.
C'est absolument vrai, on aurait dû faire un Fantomas à Moscou. C'était en gestation, l'écriture était pratiquement terminée. Ce qui s'est passé, c'est que on avait tous augmenté nos tarifs puisque les films étaient des succès énormes. Et notre ami Nebel a trouvé que finalement, maintenant, ça coûtait trop cher et que c'était pas la peine de faire un quatrième, que c'était très bien comme ça. Donc, on n'a pas fait le quatrième. Et puis, peut-être aussi que De Funès n'avait pas envie de continuer dans ce registre-là, puisque peut-être après trois films, il en avait assez. J'en sais rien.
C'était quoi l'histoire, le pitch?
Oh, le pitch, c'est l'ignoble Fantomas qui revient sur Terre pour faire souffrir les gens, et le commissaire Juve, qui est l'ennemi de Fantomas, se dit qu'il va le rattraper, et il y a un journaliste, Fandor, et il y a la fiancée Hélène, et tout le monde s'occupe d'essayer d'attraper Fantomas. Et Fantomas, évidemment, c'est le génie du mal. Et en même temps, notre ami Nebel a essayé. Il essayait de faire un petit peu du James Bond à la française. Hein. Donc il y a des très beaux décors. Quand on revoit le film, les décors sont super. La musique de Michel Mann est formidable. Mmh. Les acteurs sont bons, nous sommes tous bons. Jacques Dinham était formidable. Donc c'est un spectacle très plaisant, si vous voulez. Et je pense que effectivement, il ne faut pas diluer la sauce éternellement. Regardez... nos amis du Splendide, le Père Noël est une ordure, ça, c'était formidable. Bah, le dernier film qu'ils ont fait tous ensemble, c'était à pleurer.
Alors, autre trilogie qui a marqué les esprits, c'est quoi ? 50 ans après, finalement, Camping, Fabien Antignon. Oui. Donc, c'était 2006, 2009, 2015. C'est quand même énorme de pouvoir avoir... autant d'années et de succès. Merci, en tout cas.
En tout cas, Camping, moi, je remercie Mathilde Seigner, parce qu'apparemment, d'après la légende, c'est elle qui a dit à Antoniette, qui ne me connaissait pas du tout, que j'étais idéale pour faire Madame Pic. Donc, il m'a rencontrée, et puis, à l'époque, il était plus ou moins fiancé avec Mathilde. Il a trouvé qu'elle avait raison, et j'ai fait Madame Pic, et je suis restée Madame Pic pendant les trois. Donc, c'est à Mathilde que je dois ça, et je l'aime beaucoup, Mathilde. Donc, c'était bien, parce que c'est vrai que ces films-là vous permettent de rester populaire. Voilà. Ça n'a pas d'autre intérêt, parce que ce n'est pas difficile à jouer. Vous créez un personnage, et puis vous le laissez vivre. Mais puis j'aimais bien travailler avec Claude Brasseur. Je trouve que le couple qu'on forme, moi, c'est vrai qu'il y a des gens qui ils me rencontrent dans la rue des fois, ils me disent « Ah, l'emplacement 17 !» Et génial, donc c'est amusant, voilà. Ouais.
Claude Brasseur ?
Oui, c'est un bon partenaire. Ouais. C'est pas quelqu'un de très gentil, mais c'est un très bon partenaire.
Vous aviez également fait les Faux Vies dangereusement avec lui.
Oui, c'est vrai. Et puis, est-ce qu'il n'était pas aussi... Ah non, il n'était pas dans Tendre Voyou. Non, c'est Faux Vies dangereusement.
Et donc, pour vous, le cinéma, pour l'instant, qu'est-ce que vous avez comme proposition ?
Eh bien, j'ai un film à faire au mois d'avril avec la jeune femme, justement, qui est venue avec moi. Je l'ai emmenée à Liège parce que je pense qu'on va lancer un appel aux éventuels investisseurs qu'on pourrait trouver, parce qu'on veut tourner notre film en avril et il nous manque un peu d'argent. Alors on s'est dit qu'on allait profiter de ce séjour à Liège pour essayer de voir s'il n'y aurait pas des gens qui seraient intéressés par notre histoire, qui est tout à fait baroque et tout à fait... C'est une comédie noire, un peu grinçante, un peu baroque, dans laquelle j'ai que pour partenaire Patrick Chenet, il y a Audrey Fleureau, il y a Jean-Ben Guigui. On a une très très bonne distribution. Il nous manque un peu de sous. Alors je lance un appel en Belgique. Il nous manque un peu de sous, donnez-nous un peu de sous, voilà, pour qu'on puisse continuer.
Alors Liège, c'est quand même un peu la patrie de Georges Simenon.
Ah oui.
Mais Georges, en fait, était déjà à Lausanne quand vous avez rencontré Marc, non ?
Quand j'ai rencontré Marc, la première visite que j'ai faite à Simenon, c'était dans son énorme bunker, enfin sa maison blanche à Épalinges. Je l'ai connu à Épalinges, dans cette maison qui était vraiment, je ne sais pas comment, un homme qui avait autant d'argent et avec une femme qui avait relativement du goût, je pense, avait pu faire un truc aussi banal que cette maison-là, où les murs étaient blancs, la moquette était rouge. C'était même pas beau comme un hôtel ici. Ici, dans les hôtels, ils se donnent au moins le luxe de chercher dans des tons de gris, de beige, de cils. Il y a quand même une recherche. Chez lui, il n'y avait aucune recherche. C'était une épure, comme on dit. Et je me suis dit, mon Dieu, comme c'est moche, cette maison-là. Mais par contre, extrêmement pratique. C'est-à-dire que dans les chambres à coucher, vous aviez un espèce de monte-charge où vous jetiez votre linge sale de la chambre à coucher qui s'en allait directement dans la buanderie, que vous retrouviez le lendemain matin, la verre passée dans votre chambre et tout ça. Enfin, au niveau du confort, c'était extrêmement luxueux. Mais au niveau de... Moi, ce que j'ai aimé après, parce que je l'ai suivi dans ces différentes dernières maisons, j'aimais beaucoup la petite maison rose de l'avenue des Figuiers. Ça, c'était une petite maison très sympathique. En fait, il est retourné aux origines. Il est retourné à la maison simple et modeste. Vous savez, c'est rigolo. Je me suis rendu compte, avec l'expérience, que chaque fois que j'ai vu des gens qui étaient ensemble et qui ensemble construisaient une maison qui devait être pour eux l'achèvement de leur couple, toujours à ce moment-là que vous le voyez le couple craquer. Mais c'est très étrange, comme si le fait de construire une maison ensemble, c'était une heure de démolition.
Incroyable.
Oui, c'est incroyable, mais c'est pas la première fois que je vois ça. C'est au moins la quatrième ou cinquième fois dans ma vie que je vois des gens se séparer après s'être construit une maison soi-disant de leur rêve.
Hélène de Mongeau, un grand merci. On vous rappelle que vous êtes à Liège jusqu'à la fin de la semaine, donc dans le cadre du Festival du film de comédie de Liège. Merci.
On va voir des bons films surtout, c'est ça qui me plaît énormément.
Et des sous, donc.
Et des sous, oui, des sous, des sous.